Bonjour Swazik, alors vous êtes de retour aujourd'hui pour une nouvelle chronique, un autre écho de l'écho, et aujourd'hui après le pangolin chinois, le wison occidental.
Et oui, il y a quelques chroniques, Marie, je vous parlais de la notion d'externalité négative en économie. Pour mémoire, les externalités négatives sont des conséquences malheureuses de la production dont le traitement n'est pas incorporé dans le prix. Et aujourd'hui, Marie, je me pose la question de savoir si finalement la pandémie de Covid-19 ne serait pas une externalité négative de notre système productiviste. Alors, vous allez me dire, mais c'est pas possible. Le coronavirus est un virus tout ce qu'il y a de plus naturel. Rien à voir avec notre système économique. Le coronavirus, oui, mais l'ampleur de l'épidémie, à voir. En effet, au fur et à mesure de mes lectures en ce moment, je n'en suis pas si sûre. Vous avez notamment dû lire dans la presse que cette nouvelle variante qui sévit actuellement en Grande-Bretagne proviendrait d'un virus transmis à l'homme par des visons. C'est ce que l'on appelle la zoonose. Alors, Serge Morand, chercheur au CNRS, nous éclaire et il montre que durant des millénaires, les zoonoses, donc ces maladies qui proviennent des animaux qui se transmettent à l'homme, ont été étroitement corrélées à la domestication des animaux. Savez-vous, Marie, que les oreillons ou la variole proviennent de la vache quand nous l'avons domestiquée il y a des centaines de milliers d'années? C'est étonnant quand même. Alors aujourd'hui, évidemment, les maladies proviennent surtout des animaux sauvages comme la chauve-souris, les singes, que les hommes côtoient quand ils défrichent de plus en plus de territoires encore vierges. Rendez-vous compte, la superficie forestière par habitant a été divisée par deux en à peine 25 ans. Alors logiquement, ça a provoqué l'augmentation de la densité d'animaux et renforcé le voisinage humain-animaux, ces animaux attrapant des agents pathogènes contre lesquels eux, ils s'immunisent, mais qu'ils n'oublient surtout pas de nous transmettre au passage. À ce sujet, une étude de la revue Nature, Nature, indique que le nombre de zoonoses augmente fortement depuis les années 80, avec notamment le sida et Ebola transmis par les singes. Moi, je pensais que c'était une rumeur, mais non, c'est avéré. Et la grippe aviaire transmise par les volats.
Mais Swazik, comment un animal peut-il transmettre un virus à l'homme?
Alors, on pourrait attraper le virus d'un animal en trace directe. Mais bon, se faire mordre par une chauve-souris, en fin de compte, c'est assez rare. Et non, le truc, c'est incroyable, c'est que d'autres animaux deviennent des animaux relais, plus proches de nous, comme le singe pour Ebola et le sida, ou le cochon pour la grippe porcine. Alors, je vais prendre un exemple. Prenons l'exemple de la Malaisie à la fin des années 90. Il est éclairant. Les Malaisiens ont déboisé à tour de bras pour mettre en place des élevages intensifs de cochons. Or, à côté de ces élevages vivent des chauves-souris. Ces chauves-souris mangent des fruits, laissent tomber à terre les déchets, et ces déchets sont mangés goulûment par les cochons. Vous voyez d'ici la fin de l'histoire, le virus de la chauve-souris se transmet en un temps record à l'homme par le biais du cochon. Alors à l'époque, l'épidémie qui s'en est suivie a fait une centaine de morts et fut à l'origine de l'abattage d'un million de ces pauvres bêtes. On est donc bien là en présence d'une externalité négative liée à l'activité humaine. De la même façon, Serge Morand dénonce les conséquences possibles de l'exploitation des mines de coltan au Congo par des travailleurs sous-payés. En effet, la misère de ces travailleurs les contraint à manger des animaux sauvages potentiellement porteur de virus pathogènes pour l'homme. Et c'est comme ça que, sans que nous nous en doutions, la fabrication de nos téléphones portables pourrait ainsi être à l'origine d'infernales pandémies. Alors, vous rajoutez à ces externalités le fait qu'en 25 ans, le trafic aérien a été multiplié par 7, que la population mondiale est passée de 4 à 7 milliards d'individus, dont 1 sur 8 vit dans un bidonville. Et par là-dessus qu'animaux sauvages et domestiques se rencontrent de plus en plus fréquemment, comme sur le marché de Wuhan, et vous obtenez un cocktail explosif au niveau de la propagation d'un virus. Le pire dans l'affaire, c'est que tout cela paraît extrêmement logique, et donc est entièrement prévisible. Et à mon avis, c'est pour ça d'ailleurs qu'il existe, quand on se penche dessus, depuis de nombreuses années, toute une littérature scientifique sur l'imminence de pandémie mondiale. Même mon médecin généraliste m'en a parlé et pour lui c'était évident. Alors aujourd'hui, nous voyons sortir cette histoire de vison. Pour plus de précision, je vous renvoie à l'excellent dossier en cours sur le sujet de Reporter. Le Monde, le journal Le Monde, mène également l'enquête. Et je vous garantis que ça fait froid dans le dos. Il semblerait, en effet, que dès le mois de mars, les visons soient en cause dans le développement de la pandémie. De nombreux chercheurs font aujourd'hui le lien entre le déclenchement de l'épidémie en Italie en pleine campagne et la présence d'élevage de visons au même endroit. Idem au Danemark, où on a abattu plus de 17 millions de ces pauvres bêtes, rendez-vous compte. Et on retrouve cette même corrélation très forte en Pologne, en Hongrie, en Grèce, en Finlande, au Canada, aux États-Unis, en Chine et dans bien d'autres pays qui cultivent les animaux à fourrure. Alors, on avait beau jeu de se moquer des Chinois et de leurs pangolins, mais on aurait aussi pu balayer devant notre porte, hein. Vous vous rendez compte, Marie, une épidémie mondiale comme conséquence de la fabrication de manteaux pour vêtir une minorité d'individus fortunés dans le monde. En plus de l'aspect éthique de ces élevages, je trouve vertigineux de se dire qu'une production aussi inutile, surtout avec le réchauffement climatique, pourrait déclencher un tel séisme économique et social.
Effectivement, c'est vraiment vertigineux, incroyable. Mais que peut-on faire ?
Alors, les remèdes, ils sont simples, on les connaît tous, hein, d'une simplicité à pleurer. Sobriété dans les échanges, agriculture plus responsable, échanges localisés, diminution de la malbouffe pour diminuer les risques de comorbidité et respect des territoires sauvages. C'est simple. Et pourtant, Marie, la réponse au désastre écologique imminent en ce moment en France consiste à intégrer la notion de développement durable à la Constitution. Alors, je ne sais pas vous, mais personnellement, j'ai quelques raisons de penser que le pire n'est pas forcément derrière nous.